et enfila sa blouse vert d'eau avant de sortir par la minuscule porte du fond. Le travail l'attendait. Au sous-sol de l'Institut médico-légal, le docteur Folstom se lava les mains en s'efforçant de se concentrer. Le miroir lui renvoyait l'image d'une femme qu'elle avait longtemps perçue comme grande et élégante, mais qui aux yeux des autres n'était que stricte, une image froide au regard perçant. Au blond mordoré de ses cheveux venaient se greffer des sillons gris qu'elle apprenait à haïr un peu plus chaque matin, lui rappelant qu'elle avait déjà bien entamé sa quarantaine, tout autant que sa solitude. Elle expira deux bouffées d'air, rapidement, à la manière d'un jogger, et poussa la porte à double battant. Aussitôt, le masque de courtoisie se figea sur son visage. De l'autre côté l'attendait un homme relativement jeune, avec les cheveux parfaitement coiffés, plaqués par plusieurs tonnes de laque. Il évoluait par petits gestes précis dans un costume beige d'une grande élégance, calculant le moindre de ses déplacements. Tout en lui évoquait le politicien.
« Monsieur Cotland, la tournée m'envoie son substitut tandis que la police de notre ville ne daigne pas assister à l'autopsie. »
Bentley Cotland haussa les sourcils sans décrocher un sourire.
L'inspecteur Lloyd Mitz est en train d'examiner la scène où on a retrouvé le cadavre. Nous pouvons le joindre à tout moment si nous avons besoin de renseignements.
Fit-il en exhibant un téléphone portable. Il veut s'épargner l'autopsie, oui, songea Sidney. L'air autour d'eux était chargé de particules dérangeantes, une odeur de mort médicamenteuse, un relent aigre de viande froide et d'antiseptique. Au milieu de cette salle aveugle, les sialytiques fondaient sur le corps d'un homme comme les poursuites d'un théâtre sur l'artiste.
Alors, quel est ce patient qui nécessite une autopsie dans l'urgence ?
Cotland se rapprocha du cadavre. Cela faisait désormais plus d'un an et demi qu'il était en poste au bureau de Latornay. Il commençait à en avoir vu suffisamment pour ne pas s'inquiéter du teint rosé. Il savait que la pâleur légendaire des morts n'était pas un axiome systématique. Bien souvent, la peau conservait sa couleur quelques heures avant de devenir cireuse.
« Il s'appelle Jeremiah Fisher. On l'a retrouvé il y a seulement 5 heures chez lui, dans son lit. C'est la femme de ménage qui l'a découvert. »
« L'inspecteur Mitz m'a appelé ce matin pour me demander de procéder à l'autopsie dès l'arrivée du corps. Pourquoi un tel empressement ?» Cotland leva l'index pour montrer qu'il en venait à ce point.
« Fisher est marié, mais on n'a trouvé aucune trace de l'épouse, ni chez eux, ni à son travail. On a contacté la famille en vain. La femme de ménage dit qu'elle l'a eu au téléphone la veille, tout semblait normal. » Le légiste qui a assuré la levée de corps a remarqué une marque de piqûre dans le creux du bras droit. Nous voudrions nous assurer de la cause de la mort rapidement avant de lancer un mandat de recherche concernant la femme de ce pauvre type.
Très bien, je peux pratiquer l'autopsie pour vérifier que tout est intact, mais s'il s'agit bien d'un empoisonnement, et ça y ressemble, on ne le saura qu'avec les résultats de la toxicologie dans l'après-midi.
Cotland secoua les épaules.
Le plus tôt sera le mieux. De toute manière, je parie que Mme Fisher est déjà dans un autre état à l'heure qu'il est.
Sidney Folstom enfila ses différentes épaisseurs de gants et se livra aux constatations préliminaires. Pesée, étude macroscopique du corps, cherchant une ecchymose ou une blessure dissimulée dans le cuir chevelu. Elle ôta les sacs plastiques qui entouraient les pieds et les mains et les examina attentivement. Elle gratta le dessous des ongles à la recherche de fragments de peau ou de sang caillé, sans succès. Aucun signe de lutte. Jeremiah Fisher reposait nu sur l'inox glacé, la bouche entrouverte. Un des deux yeux à moitié fermé après que le légiste eut inspecté ses globes oculaires à la recherche de pétéchie, signe éventuel de strangulation. Avec la précision et la vitesse de celle qui pratique quotidiennement ce geste, le docteur Folstom enfonça la pointe de son scalpel dans le bras gauche et traça un trait noir de 10 cm de profondeur dans la graisse et le muscle, sans provoquer d'épanchement particulier de sang. Elle écarta les deux pans de chair et fouilla l'intérieur. Pas d'ecchymose interne non plus. Elle contourna la table de dissection et fendit l'autre bras de la même manière sous le regard écœuré de Bentley Cotland. Voir un mort était une chose, assister à son dépeçage une autre, qu'il n'avait toujours pas réussi à surmonter sans dégoût. Soudain, au moment même où la lame transperçait la peau, la main du mort se mit à trembler. Les doigts se déplièrent avant de se rétracter et se crisper. Cotland eut le désagréable sentiment que Jérémia serrait le poing pour supporter la douleur.
« C'est normal, ça ?»
Sidney Folstom leva les yeux vers le substitut de la Tornay. « Quoi donc ?»«
Eh bien là, le mouvement de la main. »
Elle recula, mais ne distingua rien de particulier.
« Il a bougé les doigts. »«
Vous êtes sûr ?»«
Plutôt oui. Ça m'a flanqué une sacrée peur. »
J'ai dû remuer le bras sans y prêter attention.
On aurait vraiment dit qu'il bougeait, je vous dis. Vous savez, dans le genre réflexe post-mortem, un résidu d'électricité.
Le docteur Folstom planta ses prunelles dans celles du jeune homme. Peu probable, la rigidité cadavérique a déjà commencé. Cet individu est mort il y a 7 ou 8 heures. Cotland ouvrit la bouche mais s'abstint de poursuivre. Il alla s'asseoir et sortit un chewing-gum d'une poche. Il l'avait à peine mis dans sa bouche qu'il le recracha dans son emballage et expira longuement pour se détendre. Sidney pratiqua ensuite une profonde ouverture depuis le menton jusqu'au pubis. Elle faisait partie de ces rares légistes à ne pas utiliser l'incision en Y, lui préférant le I qui dégageait dès le début l'accès à la gorge. Après avoir écliné latéralement le muscle sternocléido-mastoïdien, elle tâta l'intérieur du cou du bout du doigt. Pas d'ecchymose interne là non plus. Elle rétracta la peau à l'aide de plusieurs entailles sèches pour laisser apparaître le plastron sternocostal et la cavité abdominale. Le tranchant émoussé par l'opération, Sidney posa son scalpel et en prit un neuf. Elle se tailla un chemin en douceur jusqu'à la vessie, réclinant vers le haut l'intestin pour prélever de l'urine à l'aide d'une seringue. Puis, utilisant la technique d'éviscération dite de Virchow, elle prédisséqua in situ les organes et leurs connexions anatomiques. La lame brillant sous la lumière crue s'immobilisa soudain. Devinant un problème, Cotland releva la tête.
« Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?»
Une alarme retentit dans son esprit lorsqu'il capta la lueur du doute sur le visage du légiste. « Ah, c'est étrange. La peau vient de réagir. » Cotland se releva péniblement, blafard. « C'est étrange. Je n'ai jamais vu ça. On dirait la chair de poule sur le haut des cuisses. Là. »
« La chair de poule ? Comme s'il avait froid, vous voulez dire ?»
Non, c'est impossible, mais... Le docteur Folstom posa son scalpel sur le chariot roulant et se pencha au-dessus du corps. Elle aussi devenait livide. L'épaule du cadavre se mit subitement à tressaillir. Un tremblement qui fit tomber une des pinces placées dans ses entrailles. Jérémia Fisher redevint statique aussitôt. Trébuchant, Cotland porta une main à sa bouche.
« Sainte Marie, mère de Dieu !» Dites, mais tout de même pas vivant.
Mais ne dites pas de bêtises.
Et ça, vous l'expliquez comment? Il a bougé. Il a la chair de poule, merde!
S'évertuant à garder son sang-froid, Sidney Folstom s'empara d'une petite lampe torche. Substitut Cotland, vous devriez le savoir. Avant d'atterrir ici, mes patients sont auscultés, leur respiration est arrêtée, leur pouls nul, et leurs pupilles ne répondent plus à aucun stimulus. Je l'ai reconstaté moi-même il y a moins d'une demi-heure. Il n'y a aucune erreur possible, croyez-moi. Elle ouvrit l'œil du cadavre et y posa le faisceau de la lampe. Les mots moururent sur ses lèvres. En une seconde, ses jambes flageolèrent, ses gants s'inondèrent de moiteur. Elle ne voyait plus qu'un abîme monstrueux, un trou noir dans lequel elle venait d'être aspirée. Toute sa science venait de disparaître, et avec elle toutes les certitudes de ce monde, tout cela absorbé, englouti par une pupille. Cette fois, le corps entier de Jérémia Fisher frémit. Sidney se pétrifia. Elle ne pouvait plus bouger, elle ne voulait plus. La terreur se propagea en elle comme un feu sur une nappe de pétrole. Elle savait que si elle baissait les yeux, ce qu'elle verrait la rendrait folle. À jamais.